le masque et la plume. Une femme exploratrice des pôles, une autre engagée dans une révolte sociale, mais aussi le lien entre l'art et le pouvoir politique, ce sont quelques-uns des sujets et des personnages que les cinéastes mettent en scène dans notre programme du jour. Comme d'habitude, le masque est en public et aujourd'hui, joie d'accueillir les élèves du lycée Pasquet d'Arles, ceux du collège Carnot de Paris 8 et les étudiants de l'université de Paris 1. Sur scène, ils et elles ne sont plus collégiens ni étudiants, mais journalistes critiques. J'ai nommé Florence Colombani du Point, Pierre Murat, tel qu'en lui-même,
oui.
Charlotte Garçon des Cahiers du cinéma et Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles. Le détail de notre affiche est le suivant: Les Aigles de la République de Tarek Saleh, L'incroyable Femme des Neiges de Sébastien Bette-Bédé, L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, Les Braises de Thomas Kruithof et Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Des cinémas dans l'oreille. Bonjour, bienvenue. Voici le masque. Avant de rendre compte de vos courriers de la semaine, je déclare ouvert les votes pour le prix du masque qui couronne le meilleur film français et le meilleur film étranger de l'année 2025, selon vous. Ça veut dire que d'ores et déjà, vous pouvez nous adresser vos choix par mail à l'adresse suivante, le masque et la plume, en minuscule et tout attaché, le masque et la plume, @radiofrance.com. Maintenant, pour ce qui concerne les courriers de la semaine, c'est la petite dernière de Afsia Herzi qui vous a le plus fait réagir. Pour rappel, La Petite Dernière est l'adaptation du roman autobiographique de Fatima Das sur le quotidien d'une jeune femme musulmane et lesbienne. En couple depuis plus de 20 ans et mère, au pluriel, de 4 enfants conçus par PMA, nous voilà partis pour voir La Petite Dernière, écrit Emmanuel David de Villeneuve-le-Comte. Résultat, déception. Tous les clichés sur le monde homo y sont. Le bar, les rencontres, le cul. Pas d'évolution sur l'image de la lesbienne au profit de portraits stéréotypés. Un film pour les hétéros, écrit Delphine depuis Lille. Pour Alain Lombard d'Antibes, La Petite Dernière ferait la promotion de l'homosexualité féminine. Nous comprenons pourquoi il a obtenu la Queer Palm. Il aurait dû recevoir celui du wokisme parisien. Depuis Bruxelles, David Lezimple est consterné d'entendre que le sujet de ce film est rebattu. La représentation d'une musulmane lesbienne, c'est inédit au cinéma. Enfin, Arnaud Sanquer parle d'un film ancré dans le réel et salue la mise en scène d'Afsia Herzi, créatrice d'une intensité émotionnelle rare. Les yeux rougis quand les lumières se rallument dans la salle témoignent d'une émotion contagieuse. Vous fûtes très heureux des interventions du public en faveur de la disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov. Et là, c'est Pierre Murat qui piaffe. Ce film étant l'adaptation du roman d'Olivier Guez et portrait de Mengele, bourreau d'Auschwitz, exilé en Argentine. Je sais que tu as aimé le film, Pierre. Mmh. Valentine Curtil de Villeurbanne parle d'un film magistral et Jean-Luc Clairet depuis le doux enthousiasme pour un cinéma courageux et nécessaire dans une époque qui perd la mémoire. Enfin, concernant Springsteen, Deliver Me From Nowhere, biopic consacré à Bruce Springsteen, vous poursuivez le débat. Film intéressant sur le processus de création selon Jean-Luc Pirola d'Anglette. Film trop lisse et regard bovin de Jeremy Allen White, son interprète principal, selon Stéphane Ducalvados. Stéphane Ducalvados termine son mail par la recommandation suivante. Écoutez plutôt les deux Very Good Trip que Mishka Assayas a consacrés à la sortie des inédits du Boss, évidemment sur France Inter. On commence avec le pharaon de l'écran, comédien égyptien star, qui parle de lui à la troisième personne, comme Alain Delon, et personnage principal des Aigles de la République de Tarek Saleh. Les Aigles de la République clôt une trilogie commencée en 2017, avec le Caire confidentiel, puis avec la conspiration du Caire. L'un et l'autre avaient remporté succès public et critique. On ne suit pas la même histoire entre ces trois films, mais à chaque fois, Tarek Saleh dresse le portrait de l'Égypte contemporaine et l'on retrouve son comédien fétiche, le grand, au propre comme au figuré, Fares Fares. Cette fois, Fares Fares interprète Georges Famy, star de cinéma comme je l'ai dit, et sous la pression du pouvoir, Georges est contraint d'incarner le dictateur Al-Sassi dans un biopic à sa gloire. La première partie du film est menée sur le ton de la comédie italienne, avant de basculer dans le thriller politique, lorsque George entre dans les coulisses d'un pouvoir corrompu et meurtrier. Lina Koudry interprète la très jeune compagne de ce vieux beau qu'est George Famille, et Zineb Triki joue sa maîtresse, par ailleurs épouse de ministre. George, son brushing, ses femmes et l'oppression du pouvoir, Florence, tu commences.
Eh bien, comme tu dis, Rebecca, c'est un film qui a deux volets, deux visages, deux parties. Et d'abord, c'est une comédie à l'italienne, et ensuite, c'est un thriller politique. Et je me suis beaucoup ennuyée pendant la comédie à l'italienne, et j'ai beaucoup aimé le thriller politique. Donc, du coup, on sort sur une impression positive. Mais ça n'empêche pas que la première partie, je trouve, est quand même très difficile. Ça prend pas très bien. Il y a ce personnage de star de cinéma très imbu de lui-même, qui promène une sorte de nonchalance, qui devrait avoir plus de charme qu'elle n'en a, je trouve. Qui est dans ce couple avec cette très jeune femme que j'ai trouvée assez maltraitée par le scénario, traitée avec pas mal de misogynie puisqu'elle est là clairement pour l'utiliser et que ça s'arrête là quand même, ce portrait. Le film a un petit côté comédie de mœurs, des tas de petites scénettes qui s'enchaînent, on le voit dans sa famille, on le voit dans le cadre professionnel, on le voit dans son couple, etc. Et puis, il y a un moment où la mécanique du scénario se met en place, cette mécanique qu'on avait appréciée dans le film précédent de Tariq Saleh, qui était La conspiration du Caire, qui était quand même plus réussi, je trouve. Et une fois que la mécanique s'est mise en place et qu'il y a le point de bascule, que je ne révélerai pas, mais qui est une scène très impressionnante et qui nous fait vraiment basculer dans la politique et dans l'horreur aussi de la dictature, là, le film fonctionne très bien. Et surtout, c'est un film d'un grand courage. Parce que c'est un film qui, comme tu l'as dit, nomme le président, le met en scène, montre une classe politique extrêmement corrompue, une sorte de milieu militaro-industriel terrible, qui tient le pays, qui n'a aucun souci du collectif, du bien public. Donc à partir de là, on est vraiment embarqué, je trouve.
Pierre, tu as eu cette sensation de deux films, l'un
en lui. Moi, je trouve que moi, je suis embarqué dès le début parce que je vous dites comédie à l'italienne. Moi, c'est une comédie hollywoodienne aussi. Il y a eu plein de films où on montre des stars comme ça, tout puissant. Et moi, je trouve ça absolument formidable tout le début. C'est-à-dire que ce type qui est absolument adulé, mais qui vit dans un monde en plus où il montre très bien l'hypocrisie de la société égyptienne, parce que tout le monde est contraint à respecter des règles que ces gens-là ne respecte pas, y compris lui. Et évidemment, c'est l'histoire absolument formidable, en gros, d'un comédien qui accepte, contraint et forcé, de jouer un rôle qu'il déteste et qui devient le pion involontaire d'une machination qu'il dépasse. Et c'est montré absolument, mais alors de la première à la dernière image, comme ça, avec une espèce de tension grandissante. Alors, bien sûr, il y a la scène dont tu parles, qui est évidemment le clou du film. Mais dès le début, moi, je me suis dit, mais c'est d'une méchanceté, d'une férocité. Alors apparemment, c'est peut-être un tout petit peu moins fort que les films précédents, mais en fait, c'est peut-être plus féroce encore.
En tout cas, on change de point de vue sur le personnage qui, au départ, est totalement imbu de lui-même et plutôt lâche.
Une star de cinéma, quoi.
Et voici la star, Jean-Marc Lalanne.
Moi aussi, j'étais vraiment séduit par le film dès le début. Ça tient beaucoup à l'acteur qui est vraiment génial, Fares Fares, qui est pas vraiment beau, mais qui a un charisme physique, qui tient à sa très grande taille, à ce nez extrêmement proéminent. On est vraiment fasciné par sa présence durant tout le film. Et l'autre personnage principal du film, quand même, c'est le Caire. Oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans le fait qu'aucun de ces trois films qui constituent la trilogie du Caire n'a été tourné au Caire. C'est-à-dire qu'il a reconstitué le Caire à Casablanca, à Istanbul. Et donc, c'est la grande réussite du film, c'est que c'est à la fois totalement immersif. On a vraiment le sentiment, si on y est déjà allé, si on a vu des films égyptiens, de voir le Caire. Et en même temps, c'est un Caire qui est fantasmé, rêvé, qui est chargé d'affect. On sent que pour lui, c'est une sorte de paradis perdu. Il y a vécu étudiant, il ne peut plus y retourner, il n'a plus le droit de tourner là-bas, d'y retourner. Et ça se sent très fort dans le film. Il y a une espèce de presque d'érotisation de la ville qu'il fait exister très fortement.
Et puis la magie du cinéma de l'époque.
Parce oui, avec ce très aussi beau générique qui fait un peu Almodovar, avec un collage d'affiches
qui rend hommage au mélodrame, à l'âge d'or du cinéma.
C'est vraiment aussi un
parce que l'industrie du cinéma égyptienne bien était sûr fabuleuse.
Et ce qui est beau, c'est qu'il y a le cinéma égyptien, mais il y a aussi le cinéma américain. C'est-à-dire que toute la dernière partie du film, c'est presque un thriller politique paranoïaque des années 70. C'est presque une Pacula. On passe à cause d'un assassinat qui est aussi sur un attentat comme ça d'un homme politique important. Moi, je trouve qu'il a une conduite de récit très très ferme et que le film est vraiment réussi.
Charlotte ?
Alors justement, moi, cette rupture de ton, quasiment de genre, m'a donné l'impression que du coup, chaque genre, c'est-à-dire le genre, la comédie et le thriller politique, était simplement un costume. Donc ça m'a gênée, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il pouvait changer comme ça. Au prochain film, il pourra jongler avec d'autres genres, etc. Moi, je trouve que ça manque de, j'allais dire, de sincérité, d'accident aussi.
Sincérité.
Oui. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que toute la première partie était une préparation à cette bascule. Donc, au contraire, moi, le côté quand même très inquiétant et politiquement poignant que devrait avoir la deuxième partie a été pour moi déminé, disons, par le fait que j'avais l'impression que toute cette comédie était d'emblée seulement la préparation de quelque chose de beaucoup plus explosif qui allait avoir en deuxième partie.
Des signes prémonitoires assez habilement amenés dès l'apparition de cette espèce de commissaire politique au bout de 10 minutes du film, on sent quand même
quelque chose. Oui, justement, mais c'est un peu
téléphoné. Il y a une tension qui s'installe.
C'est pas téléphoné, ça se passe comme ça.
Et d'autre part, le personnage, moi, effectivement, comme Florence, je le trouve très peu aimable. Alors d'abord, très peu séduisant, mais ça, on va pas...
Fascinant, regardez
de ça, mais en tout cas,
il est séduisant, ce mec.
On n'est pas d'accord.
On s'amuse de sa faiblesse. Nous, on veut pas que ce soit.
Je suis dans ta team, Pierre.
Oui, on veut pas que ce soit un personnage fort. On comprend que les hommes forts, c'est justement la dictature. Donc, c'est pas la question. Mais je trouve que le film se complaît quand même dans ce portrait d'homme. Alors, tout y passe, hein, l'impuissance, voilà, la dissimulation, les petits mensonges, les petits arrangements de familiaux avec son fils, etc.
Et puis, c'est quand même filmé. C'est un être complexe, comme il en arrive.
Florence, pour un film qui devrait jouer avec l'imaginaire du cinéma égyptien et peut-être même hollywoodien et en plus italien, je trouve que c'est quand même filmé avec une certaine platitude et on est très collé au personnage.
Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est très bien filmé et que même la DA du film, cette espèce de patine rétro, le rend extrêmement séduisant. Et je trouve qu'il a vraiment un œil, au contraire.
Moi, j'ai trouvé ça très laid, c'est drôle.
Désaccord ou accord, beauté ou laideur, est-ce que quelqu'un dans le public veut participer à ce qui vient d'être dit à la tribune ? Aujourd'hui, il y a Guy. Bonjour.
Bonjour, bonsoir. Bien, dans nos démocraties qui sont imparfaites et fragiles, je trouve que les gens qui pensent qu'un régime fort, c'est bien, donc je conseille aux citoyens d'aller voir ce film. Voilà. Et puis je trouve que le docteur Mansour, qui est joué par un Amer Waked, est absolument fascinant au niveau du regard et son jeu.
Merci Guy pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre qui ne s'appelle pas Guy souhaite intervenir dans le public ? Non. Après Les Aigles de la République, on continue avec un film qui lui aussi met en scène les relations entre un artiste et le pouvoir. C'est L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, dont le film précédent, Borgo, avait valu le César de la meilleure actrice à Afsia Herzi au début de cette année. L'Inconnu de la Grande Arche relate la construction de l'Arche de la Défense qui a compté parmi les grands travaux lancés par François Mitterrand au début de son premier mandat. À la surprise générale, François Mitterrand choisit un architecte totalement inconnu, Johann Otto von Spreckelsen, danois qui n'avait construit jusqu'alors que sa maison et quatre églises. Il débarque à Paris en sandales chaussettes, avec sa femme, et engage très vite un bras de fer avec le maître d'œuvre, les pouvoirs politiques et financiers. Quelques mois après The Brutalist de Brady Corbett, l'architecture est donc à nouveau moteur de scénario et de mise en scène, mais dans un registre différent. Stéphane de Moustier donne par exemple une tonalité comique à plusieurs scènes. Et j'en termine en précisant que le film est inspiré d'un roman de Laurence Cossé et qu'il réunit Claes Bang, pardon pour la prononciation, dans le rôle de l'architecte, Xavier Dolan, Swan Arlo et Sitze Babette Knudsen, que nous sommes nombreux à avoir découvert dans la série Borgen. Johann Otto von Spreckelsen. Tu le dirais comme ça, Pierre ?
Sûrement. Je crois que c'est ça.
Vas-y, lance-toi.
Une fois qu'on a accepté l'idée un peu surprenante, les premières secondes, de voir Michel Faux dans le rôle de Mitterrand, une fois qu'on a accepté ça, eh bien, c'est bien. Voilà, c'est bien parce que... Non, mais ça rappelle... Non, mais
ce que... Merci pour la brièveté.
Je vais être très court parce qu'en fait, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que c'est le typique produit de ce qu'on a toujours appelé, en France, la qualité France. C'est-à-dire un scénario extrêmement bien fait, des acteurs formidables, les deux dont je ne répéterai pas le nom, mais il y a aussi Swan Arlo, il y a aussi Xavier Dolan, tout ça. La mise en scène est impeccable, correcte. On la souhaiterait peut-être un tout petit peu plus inventive, mais c'est propre, c'est bien, on ne s'ennuie pas, on suit ça avec passion. On l'oublie assez vite après, il faut le dire, non. Comme il arrive souvent des films de ce réalisateur.
Non.
Mais sur le moment, c'est extrêmement agréable, comme tous les films Qualité France des années 50, 60, 70.
Mais quelle méchanceté, c'est affreux.
Ambivalente.
C'est très gentil.
Pas clair.
Qualité France, c'est très bien.
Dire du bien et du mal en même temps. Florence, des partages.
Non, moi j'ai trouvé ce film passionnant, et pas seulement sur le coup, mais après aussi. Et je pense parce que c'est un film qui réussit à la fois à être sur un fil de narration avec des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir racontées au cinéma, c'est-à-dire en effet le dialogue entre un artiste et les pouvoirs publics, et entre un Danois et des Français. Enfin, il y a plusieurs décalages culturels comme ça qui nous ramènent au film précédent de Stéphane de Moustier qui était Borgo.
Et ça, c'est l'un des aspects du film intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'un Danois pour porter ce regard sur le pouvoir politique français, pour demander en 1986 « Mais c'est qui Alain Juppé ?»
C'est qui Alain Juppé, il comprend pas du tout l'idée de la cohabitation, qui lui paraît totalement saugrenue. Et j'ai beaucoup aimé des petites choses. Je trouve que le film est riche de notations très fines. Par exemple, au tout début, il donne une conférence de presse puisque personne ne le connaît et qu'on l'annonce comme l'architecte de ce projet pharaonique. Et quelqu'un dit, alors, qu'est-ce que vous avez construit? Et comme tu disais, Rebecca, il dit, moi, j'ai construit ma maison et 4 églises. Et les gens rigolent. Et il y a un peu ce côté, on ricane et on se moque. Et lui, il comprend pas du tout pourquoi tout le monde rigole. Et je pense que toute la beauté du film vient de ce décalage. Il appelle son monument le cube, alors que tout le monde l'appelle l'arche. Et tout est là, tout est dans ce malentendu fondamental. Et d'ailleurs, au cours du film, on nous parle de quelque chose et on se dit, mais ça n'a rien à voir avec la Grande Arche. Et on voit en effet petit à petit comment le projet est déconstruit par des forces qui le dépassent. Et je trouve que ce qui est très bien de la part de Stéphane de Moustier, c'est qu'il n'en profite pas pour être démago et charger le côté, c'est les fonctionnaires, les technocrates. Non, il montre la passion aussi du personnage de Xavier Dolan pour... il montre que
qui
chacun est honnête.
Qui est un technocrate dans le film.
Oui, voilà, mais il montre que chacun a... un vrai désir d'aider cet artiste, mais chacun fait dans des limites, et c'est la rencontre entre un projet, une idée et la réalité qui fait la tragédie du film. C'est quelque chose d'assez déchirant quand
toute
même.
Toute la France contemporaine est là.
Mais c'est quand même beaucoup, c'est pas juste la qualité française.
Sans être complaisant vis-à-vis du portrait de l'artiste non plus, qui vire
non,
un
qui
moment...
Non, qui a aussi ces moments, en effet, grotesques.
De mégalomanie et de paranoïa. Charlotte ?
Mais c'est un film qui, je crois, délibérément joue petit face à ce type trop grand et qui a une trop grande vision et ses projets pharaoniques mitterrandiens. Je vois l'idée de construire un porte-à-faux, justement, comme on dirait en architecture, entre ce côté réduit, phallos, un peu technocratique... de la société française et ce type qui arrive où il lui suffit de faire un dessin et on est censé avoir tout compris de comment ça tient et ce que c'est que son projet. En réalité, je pense qu'à l'arrivée, ça rabote un peu quand même les qualités du film, d'autant que, comme tu l'as dit Rebecca, on a quand même en mémoire Mégalopolis et The Brutalist cette année, c'est-à-dire des films qui se confrontent à quelque chose d'immense dans l'espace aussi, dans la violence pour le film de Coppola et dans l'immensité de l'espace pour le film de Brady Corbet. Donc, il y a d'ailleurs une scène qui est quasiment la même que dans The Brutalist, dans laquelle...
Dans une carrière de marbre.
Oui, l'architecte met son visage contre le marbre qu'il a absolument envie d'employer, qui coûte trop cher, etc., pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui transcende tous les petits calculs des petits architectes et des technocrates français, et qui serait, lui, son rapport d'artiste à tout ça. Je trouve un peu dommage que le film réduise, du coup, des figures qui, en fait, ne sont dans la réalité pas du tout si gagne petit, joue petit, comme Paul Andreu, qui a construit des dizaines d'aéroports, mais qui a aussi fait les Beaux-Arts, par exemple, et qui était en fait quelqu'un avec aussi une vision. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc de tête réduite quoi, dans tout le film.
Mais il y a aussi, concernant la mise en scène, des échos entre les formes. Paul Andreu, il a construit Roissy, qui est rond, et Otto von Schmidt-Nicholson, lui, construit un carré. Enfin, il y a un jeu.
Il y a l'architecte de la pyramide du Louvre en construction.
Voilà, il y a tout un jeu de formes, quand même.
Dans la maternelle.
Dans le montage et dans la mise en scène du film. Mmh. Jean-Marc.
Ouais. Oui, et peut-être quand même pas assez. Moi, il y a un premier temps où, comme toi, Charlotte, je pensais à Mégalopolis et The Brutalist, qui ne sont pas des films que j'aime beaucoup. J'étais un peu soulagé de me dire qu'un portrait d'artiste d'architecte pouvait aboutir à un film qui ne soit pas forcément pompier et monumental. Et je trouve ça assez malin de faire un film qui n'est pas du tout du côté de la monumentalité sur la production d'un monument, qui se concentre plutôt sur les personnages, les situations. Mais à un moment donné, quand même, je trouve qu'il y a une fadeur formelle, quelque chose d'un peu terne. Et même s'il y a cette géométrie dont tu parles... Oui, moi aussi, j'ai un sentiment un peu mélangé, comme toi, Pierre, sur le film. De ce point de vue-là, parce que je trouve qu'il ne projette pas quand même une idée formelle assez forte, alors qu'il ne parle que de formes, qui s'emboîtent, effectivement, qui s'opposent. Et je suis aussi un peu perplexe devant le côté insituable de la position de Stéphane de Moustier par rapport au conflit qu'il expose. C'est-à-dire qu'on sent qu'il admire quand même l'idéalisme et la radicalité de l'architecte, mais qu'en même temps, il montre aussi comment il va dans le mur et qu'il est sans concession là-dessus. Il reconnaît des vertus au pragmatisme des personnages autour de lui, mais en même temps, le très satirique est un peu appuyé sur le personnage de Xavier Dolan. Je trouve que c'est presque même gênant pour l'acteur. En fait, je trouve vraiment ce personnage de bouffon un peu embarrassant. Et donc le film est dans cette espèce d'hésitation. On ne sait pas trop où il se situe. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui pour moi n'adhère pas. J'aimerais qu'il affirme davantage un point de vue sur ce qu'il raconte.
Est-ce que quelqu'un souhaite participer à ce débat sur l'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier? Guy?
Je trouve qu'il y a un rapprochement entre le Springsteen qui résistait contre l'industrie du disque, et là on a un architecte digne de ce nom qui résiste contre les technos, les politiques et les entrepreneurs. Il y a une scène géniale de Michel Lescaut qui donne rendez-vous dans un bistrot
chez Lip.
Il est l'entrepreneur de la majorité des tours de la Défense, et c'est absolument incroyable. Ensuite, je voudrais rappeler que Beaubourg est une première œuvre, que le musée juif à Berlin, qui l'a vu, c'est un chef-d'œuvre et c'est une première œuvre. Ensuite, je voudrais dire que j'ai travaillé longtemps dans une grande enseigne suédoise. Donc je sais ce que c'est que les Scandinaves, qui ont une culture totalement opposée à la nôtre et qui nous prennent pour des latins. L'Europe du Sud, pour eux, c'est des magouilleurs. Et il y a une scène géniale avec le grutier, pour ceux qui iront le voir. Et enfin, ce film m'a totalement ravi parce que je me suis vu à Chicago en train de chercher la tombe de Mies van der Rohe, qui pour le coup est un très grand architecte et qui a une simple plaque de marbre noir dans l'herbe.
Merci, Guy. Une autre intervention en haut de la salle, au balcon. Bonjour. Oui.
Bonjour. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai eu du mal à voir comment il allait décoller dans un premier temps. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont il montre qu'être un artiste, inévitablement, c'est aussi faire partie de son temps et d'être un artiste de son temps. Et que quoi qu'il arrive, c'est être confronté à des politiques, des pays, des individus qu'on côtoie. Et là-dessus, je trouve que le film est assez fort parce qu'il est submergé par ses ambitions personnelles, alors qu'il y a une dimension collective qui est assez intéressant, je trouve.
Quelqu'un d'autre pour L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier? Non. Après ce film, on passe donc à un tout autre registre avec Predator Badlands de l'américain Dan Trachtenberg, qui réalise le 7e volet de la franchise Predator, balise de la pop culture, lancée en 1987. Bienvenue sur la plus dangereuse planète au monde, et la plus sonorisée aussi, avec tout ce qu'il faut de bruitages organiques. Deck est un prédateur, pour rappel un bipède reptilien avec dreadlocks et canine proéminente. Contrairement au volet précédent, ce prédateur-ci est un émotif. Son salopard de père veut l'éliminer et il le met au défi. Deck doit ramener la tête d'un monstre réputé invincible. En chemin, Deck rencontre Tia, ou du moins ce qu'il en reste, car Tia est une androïde Kudjat. Elle a perdu ses jambes dans un combat avec le monstre invincible suscité. Tia et Deck font équipe pour zigouiller le monstre, et leur alliance est, disons, contrariée par la sœur cyborg de Tia, qui en est amoureuse. Tia est amoureuse de sa sœur cyborg. Tia et sa sœur cyborg sont interprétées par Elle Fanning, qui la même année a le talent de jouer à la fois dans Valeurs sentimentales de Joachim Trier et dans ce Predator Badlands. Charlotte.
Oh bah, tu as tout raconté.
Ah, tu n'as plus rien à dire.
Tout spoilé. Non, en fait, au début, j'avoue que moi,
je n'ai suivi
aucune saga, je ne savais pas que ça existait, etc. Et j'ai eu du mal à me raccorder, à trouver un visage sur ce monstre avec... voilà, avec une double mâchoire, il y en a une verticale, une horizontale, enfin, je vois pas trop comment ça fonctionne.
Ah, tu as eu besoin de te repérer dans la mâchoire du monstre.
Oui, et puis le sang, c'est de ces espèces de d'antigel, là, vert, acide, etc. Et j'avais l'impression que il me manquait les références, sans doute Star Wars que je n'ai pas non plus vu. Enfin, bon, voilà.
Ah oui.
Ah oui. Non. c'est grave. Oui.
Nous partons de loin en termes de franchise.
Donc j'ai un peu eu du mal. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'il arrive sur la planète Gena, là, et que l'écosystème est assez hostile, dirons-nous, avec des lianes prédatrices, avec des plantes hyper vénéneuses, etc. Là, ça a commencé à m'intéresser, et évidemment parce qu'il y a ce personnage féminin. Donc c'est vrai que tout le début très viriliste, enfin toxiquement viriliste, m'a assez désarçonné. Et plus on avance, mieux c'est. Et moi, j'ai vraiment aimé une scène dans laquelle le cul de jatte et les jambes se battent chacune contre un androïde. Et là, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une proposition de mise en scène, à la fois
et
comique
scène d'action.
Et une scène d'action réussie, quoi.
Jean-Marc ?
Ben, moi, j'adore le film. Ce que tu décrivais, justement, je trouve que c'est-à-dire le trouble qu'on a au début de s'identifier à ce personnage donc de Predator, qui est quand même assez loin, surtout sur son visage, d'un être humain. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une expérience de l'altérité. Et autant le premier Predator de McTiernan, qui était déjà un très beau film, qui était absolument le contraire, c'était un film totalement du côté de l'anthropocentrisme, il n'y avait que des hommes et un alien qu'on massacrait. Là, le film participe de la grande opération de déconstruction des blockbusters aujourd'hui. Dans une semaine, par exemple, on verra Wicked 2, qui nous explique que dans Le Magicien d'Oz, celle qu'on a toujours pris pour la méchante sorcière, en fait, est une victime et un personnage positif. Et bien là, c'est la même chose. Le Predator n'est plus quelqu'un de toxique et de menaçant, mais celui qui est un héros positif auquel on va s'identifier.
Ça, c'est la grande nouveauté de ce volet, celle de
voilà, c'est ça. C'est son côté très, très contemporain et passionnant de ce point de vue-là. Et ce que je trouve très beau dans le film aussi, c'est que le film construit une communauté d'orphelins. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que l'émancipation, ça passe par la trahison des gens de son espèce. C'est-à-dire qu'il va...
Ça te plaît, ça?
Je trouve ça très, très beau. Ouais. Je trouve que c'est une famille choisie. C'est-à-dire que sa famille, la famille qui est la famille biologique, est toxique. Il est sous l'emprise de son père, qui est un personnage masculiniste. Et d'emblée, on va voir qu'il va essayer de se défaire de cette emprise et que ça devient une communauté de gens qui ont été abandonnés, qui sont des orphelins et qui vont être bienveillants et solidaires entre eux. Donc le film, je le trouve très beau sur ce qu'il dit, mais je le trouve aussi très beau sur ce qu'il montre. Et je trouve que cette espèce d'appétit d'imaginer des formes de vivants incroyables, une faune, une flore, c'est d'une puissance poétique incroyable.
Je précise pour ceux qui n'ont pas l'image que tous les soupirs et les grands mouvements qui font rire le public sont ceux de Pierre Murat.
Non, mais j'admire, je t'admire parce que je suis... Mais je sais pas comment tu fais pour trouver des choses aussi intelligentes... sur une bêtise pareille. Parce que c'est nullissime. Mais c'est nullissime de penser...
Mais est-ce que tu n'es pas en train de dire des bêtises sur un film très intelligent?
Et je vais te dire, alors maintenant, en plus en France, tu sais, on ne peut plus être d'accord avec quelqu'un. Non, parce que sans que tout le monde te traite ou de facho, nazi, etc. Mais là, c'est un film facho. C'est vraiment
c'est
un film facho. Rien. C'est-à-dire que le mec passe son temps à dire... Oh, je veux devenir fort parce que les faibles, il faut les tuer. C'est ça la morale
parce
du
qu'il
mec.
Est sous l'emprise
et
paternelle.
Il va se défaire de cette idéologie violente synthétique soi-disant si bien. C'est ah oui, la société ne peut pas vivre avec des êtres faibles. Il faut tous les décimer. Il faut être entre gens
mais
forts. Mais enfin, c'est dégueulasse. C'est comme dirait, c'est absolument
c'est tous les êtres défaillants.
Bon, alors ça, c'est une chose.
Tous les freaks qui se réunissent à la fin. Précisément, le film est une apologie de la faiblesse.
Oui, bah tu parles,
mais
Charles. Mais non, rien du tout. Alors, bon, en plus, très rapidement, c'est vrai que j'ai eu une ineffable expérience parce que je suis malheureusement, à cause de questions d'horaire, allé voir ce film dans une magnifique salle de Place Clichy qui est en 4DX. Alors, je vous dis pas, hein, parce que moi, la femme m'avait averti, la l'ouvreuse m'avait dit, vous savez, monsieur, vu mon âge sans doute, ça secoue un peu. Je dis, mais pas ma pauvre dame. Vous parlez à quelqu'un qui a vécu le Sunset Round des années 70. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, mais c'était des fauteuils qui s'agitaient un tout petit peu au moment des tremblements de terre. Heureusement qu'elle m'a averti, parce que comme je suis à faire très rapidement... Alors, vous avez du souffle là, dans votre
la
cou,
nuque.
Très désagréable, qui vient de temps à autre. Tous les quarts d'heure, il y a des gouttes. Alors, est-ce que c'est du sang qui tombe sur mon crâne dégarni? J'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Et je ne vous parle pas des fauteuils, parce que votre fauteuil, c'est comme dans un rodéo. ça s'agit dans tous les sens, mais vous n'avez pas idée. Alors, heureusement, pour tout vous dire, que j'avais petit déjeuner léger, parce que c'était à 10h30, parce que vraiment, je me suis dit, si je reste 20 minutes de plus là, je vais dégueuler toute la salle. C'est pas possible. Je suis allé me réfugier, vous savez, près des poubelles, parce que là où les gens mettent leur café et leur machin, et là, ça bougeait pas, Dieu merci. Donc, j'ai pu voir ce film débile jusqu'au bout.
Florence, est-ce que tu as vu Predator en 4DX ?
Non, mais je me sens très mal de passer après un aussi beau solo de Pierre Murat. Ah, c'est comme dans c'est un sûr. Concert de rock. Non, mais que moi, je suis d'accord avec Jean-Marc sur le message du film, mais je trouve que c'est un mensonge terrible d'envoyer les gens voir Predator pour en fait voir un gentil boy scout devenir copain avec une pauvre éclopée. Enfin, il y a un message en effet de gentillesse qui me paraît totalement décalé avec la franchise et avec la philosophie originelle de la. Ben, c'est peut-être un progrès, mais c'est surtout pourquoi ne pas inventer autre chose dans ce cas-là ? Pourquoi ? Et je trouve aussi que ça puise tellement dans l'imaginaire du western. C'est-à-dire que oui, Predator, il a une double mâchoire et des oreilles on sait pas où, mais au fond, c'est un personnage d'Indien qui rencontre un personnage américain et ils deviennent amis, chacun apprend de la civilisation de l'autre. C'est vraiment une sorte de western postmoderne. Donc en fait, ça n'invente rien, si ce n'est que ça vide un peu...
L'invention figurative du film, tu vois. Il y a toutes ces plantes incroyables, ces limaces explosives, ces épines paralysantes.
Et toutes ces petites gouttes qui vous agressent. Ouais, ouais.
Des êtres vivants.
T'as pas vécu les limaces, Pierre ? Pardon. T'as pas vécu les limaces, non, sur le 4DX, là
J'ai envie de vomir.
Tu as été...
T'as rien vu, en fait.
Une contribution critique du public pour Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Pierre, tu as fait baisser tous les bras.
Vraisemblablement. Une expérience formidable.
Après La planète lointaine de Predator Badlands, voici La France de 2018 avec Les braises de Thomas Kruithof. Jimmy et Karine vivent avec leurs deux ados dans la banlieue d'Angoulême. Lui est à la tête d'une petite entreprise de transport routier. Elle tient la cadence comme ouvrière dans une usine agroalimentaire. Ils s'aiment, font l'amour dans la cabine du camion de Jimmy en attendant de terminer les travaux de leur maison. Lorsque le mouvement des Gilets jaunes commence, Karine rejoint les ronds-points et y trouve un espoir dans le collectif. À mesure que l'implication de Karine dans le mouvement grandit, une distance s'installe entre elle et son mari. Jimmy, lui, est dans une lutte quotidienne et individuelle pour maintenir son entreprise à flot. Quelques semaines avant Dossier 137 de Dominique Moll, qui questionne les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, Thomas Kruithof traite cette mobilisation populaire par le biais de l'intime, avec Virginie Efira dans le rôle de Karine et Harry Vorthalter dans celui de Jimmy. Jean-Marc.
J'ai réalisé, dans un premier temps, j'ai découvert la bande-annonce du film, que si on avait tous en tête énormément d'images sur ce mouvement social majeur de la France du XXIe siècle, qu'avait été le mouvement des Gilets jaunes, c'était essentiellement des images de télévision, des images de réseaux sociaux faits par les acteurs mêmes du mouvement, mais que le cinéma n'avait jamais vraiment apporté de contrepoint. Il y a eu, évidemment, le documentaire « Je veux du soleil », il y a eu, mais un peu en contrebande, le film de Catherine Corsini, « La fracture », mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un énorme manque. Enfin, c'est fou que le cinéma français ce ne soit pas emparé de la question. Ben, je trouve que ce manque n'est pas vraiment comblé par ce film-là et que le choix, comme tu le disais Rebecca, de le traiter par l'intime, je pense que c'est un peu pour moi l'impasse du film. C'est-à-dire que tout ce qui est le versant collectif du film, l'expérience du partage qu'elle a avec les autres Gilets jaunes, l'expérience de la répression de ce mouvement collectif, c'est là-dessus qu'on n'a pas d'image et qu'on a envie d'en voir, et je trouve que le film est un peu chiche, qu'en plus le personnage de Virginie Efira est un peu trop central, c'est-à-dire que je trouve que le film n'est pas assez démocratique et collectif dans la manière dont il distribue l'importance de ces personnages de Gilets jaunes entre la star et les personnages secondaires, et ensuite, il y a l'autre film, qui est le film conjugal, que là, j'ai l'impression vraiment qu'on l'a vu 100 fois. Un couple qui parle de manière un peu âpre dans une cuisine. Enfin, que ce film-là, il est très, très banal. Et que du coup, le film réussit à donner le sentiment d'avoir été vu 100 fois sur un sujet qui n'a quasiment jamais été traité.
Pierre.
Eh bien, je ne suis pas d'accord.
Encore.
Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais précisément pour les raisons que tu as dites. C'est-à-dire que, d'une part, ça m'a rappelé un peu les vieux films des années 30 sur du Vivier, La Belle Équipe, sur le Front Populaire. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tendresse quand il contemple, en effet, les manifestations, les gens qui se retrouvent. Je trouve que c'est avec une grande tendresse, une grande générosité. Et l'histoire du couple, moi, je la trouve absolument formidable, parce que on voit ça, les couples, les amis, détruit par des opinions politiques, eh ben, je trouve que c'est vraiment fait avec un regard. Je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup le film de Moustier, L'Arche, mais ça manquait un peu de regard. Là, je trouve que le regard posé sur les personnages est juste, et surtout sur lui. Parce que elle, Virginie Efira, est très très bien, c'est pas l'actrice. Mais le personnage est en effet un peu banal, c'est quelqu'un qui découvre le militantisme et qui se radicalise en quelque sorte. Mais lui, je le trouve formidable, c'est un petit patron, comme on en voit beaucoup, et qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est obligé de tricher pour essayer de survivre et au risque de danger. Et je trouve que c'est observé avec une finesse, une délicatesse et une force assez rare dans le cinéma français.
Ce filmage du quotidien au travail est peut-être rarement montré au cinéma, peut-être. Florence.
Oui, il y a des choses intéressantes dans le film. Il y a ce personnage auquel je suis sensible aussi, du mari que joue Harry Vorteller très bien d'ailleurs, et qui est un personnage touchant parce qu'on le voit dans son combat quotidien de, en effet, de petit patron qui essaie de survivre, mais aussi de mari qui sent que sa femme lui échappe. Tout ça est prenant, touchant. Pour moi, le vrai problème du film, c'est un problème visuel, ce que disait Jean-Marc, c'est-à-dire que cette abondance d'images qu'on a eues des gilets jaunes, je trouve que le film n'arrive pas à trouver son regard à lui et qu'on est dans une sorte quand même d'équivalent télévisuel. Du fait que l'idée de scénario, c'est quand même que le couple ne va pas résister à cette épreuve, ou en tout cas que ce sera très difficile, ou en tout cas qu'il y a un antagonisme mari-gilet jaune, c'est une idée qui est répétée de scène en scène, et donc chaque scène sert à illustrer une sorte d'avancée dans cette même direction. Et pour moi, c'est ça le problème du film, c'est qu'on est sur une sorte de route comme ça qui suit son cours et qu'on n'est pas du tout surpris, il n'y a jamais un pas de côté, c'est vraiment une route.
Ah ouais, non.
Charlotte.
Quel ennui, moi. Enfin, le film s'appelle Les Braises et vraiment j'ai eu envie de souffler dessus.
Ah oui, c'est un titre totalement décalé. Ouais.
Non, mais parce qu'on a l'impression que quand même ce mouvement qui a été important, et il y a eu des documentaires importants, tu en as cité Jean-Marc, mais il y a eu aussi Un Peuple d'Emmanuel Gras, il y a eu Boum Boum, bon voilà, quelque chose de la vigueur politique, du danger, de la violence subie et donnée était là. Là, effectivement, c'est complètement replié sur la petite histoire, gna gna gna, monsieur, madame et tout.
C'est
insupportable. Moi, j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Bah, là, c'est sûr qu'un café de biscotte, on risque pas de les vomir parce qu'il se passe rien.
Vous voulez voir des films qui n'existent pas.
Non, mais je veux dire, la bonne femme, elle a 40 ans bien tassés. On a l'impression qu'elle s'éveille à la politique tout à coup. Mais non, comme s'il n'y avait pas une histoire politique récente. Non, c'est pas. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment à la fois psychologiquement faux, mais même sociologiquement et politiquement assez grave de la montrer comme ça à sa première manif, la bouche ouverte.
Eh ben oui.
Béat perdu, Fabrice Del Longo au champ de bataille.
Il y a des gens qui n'emmènent pas leurs enfants tous aux manifestations à 8 ans.
En tout cas, moi, ça m'a donné envie de revoir une bataille après l'autre où le couple est aussi finalement explosé, éclaté par leur engagement politique, mais où au moins quelqu'un a envie de faire du cinéma.
Y a plein de cinéma là-dedans. Alors s'il y a vraiment un film où il y a du cinéma, c'est là.
D'autres voix que celle de la tribune pour parler des Braises de Thomas Kruithof. Oui, au premier rang.
Bonjour. Moi, je voulais dire qu'il y a un vrai problème de crédibilité dans ce film. Enfin, Virginie Efira en gilet jaune, on n'y croit pas une minute. Et il y a un tel problème de crédibilité qu'on arrive à tout de suite voir ce qui va se passer, en fait. Le scénario est évident. On décolle de l'actualité sociale. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est un très mauvais téléfilm.
Quelqu'un d'autre ?
Non, mais c'est quand même un problème que le film soit un programme, alors que le mouvement des Gilets jaunes, c'était
mais
le contraire. Ça a été
sur
le
les
contraire.
Gilets jaunes, enfin. Encore une fois, tu veux qu'il fasse le film que tu veux. Bah non, il en fait un autre.
Comme tous les critiques.
Est-ce que quelqu'un d'autre dans le public veut parler de son film de Gilets jaunes ou... Vraisemblablement non. Donc on termine avec L'incroyable femme des neiges, comédie de Sébastien Bette-Bédé. Je m'appelle Colline Morel, j'ai 46 ans et je vais bientôt mourir. C'est ce que dit en voix off Blanche Gardin interprète de cette fameuse Colline. Colline est exploratrice. Elle a arpenté les pôles avec ses clopes et ses jumelles à la recherche d'un yéti auquel elle est la seule à croire. Retrouvée à moitié gelée sur la banquise, elle retourne dans son Jura natal. Elle est imprévisible, auto-centrée, d'aucuns diraient ingérable. Et dans son Jura natal, elle retrouve ses deux frères et un amour de jeunesse. Dans sa deuxième partie, le film déjoue les attentes avec la fuite de Colline dans un village inuit du Groenland. Et je précise que les frères jurassiens de Colline sont joués par Philippe Catherine et Bastien Bouillon. Florence.
Oui, c'est d'ailleurs une bonne idée d'en avoir fait des frères et qu'ils soient les frères de Blanche Gardin. Il y a quelque chose là dans le casting qui est assez prometteur, mais qui pour moi ne prend pas vraiment. Mais c'était une bonne idée de les assembler. Oui, c'est quand même un pari d'essayer de raconter une femme qui recherche un yéti au pôle Nord et qui en même temps a un diagnostic terrible qui lui tombe dessus et qui aussi se rend compte qu'elle est passée à côté de son amour de jeunesse. Bon, il y a des strates comme ça qui pourraient donner un film réaliste, un film social, un film burlesque. Pour moi, l'assemblage ne prend pas, et je pense que c'est en partie lié à Blanche Gardin, comédienne de cinéma. C'est-à-dire que Blanche Gardin, on la connaît dans son côté stand-up, qui a un autre rapport au public, qui a une autre façon d'exister avec son corps et son visage. Pour ce personnage-là, qui est tellement multiple et complexe et chargé et surchargé par le scénario, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa prise de rôle, dans la façon dont elle le porte. Et il faudrait qu'on la suive d'emblée, il faudrait qu'on y croit tout de suite pour la suivre jusque chez les Inuits. C'est quand même un voyage difficile à croire, auquel le cinéaste nous demande de croire. Et pour moi, c'est vraiment cette croyance-là qui ne fonctionne pas.
Ah bah pour ma part, j'ai trouvé que c'était son meilleur rôle. Pierre ?
Non, mais comme j'ai monopolisé la parole sur Badlands et autres stupidités, donc je vais être très court parce que je suis d'accord. Je ne marche pas. Voilà. Je devrais marcher. Je ne crois pas. Parce que monsieur, tout à l'heure, ne croyait pas à Virginie Efira peut-être. Mais alors là, je ne crois pas en Blanche Gardin. Je ne crois pas en D'accord. Philippe Catherine. Je ne crois pas en Bastien Bouillon. Je ne crois pas aux Inuits.
Ça fait du monde.
Je reste au seuil. Je suis désolé parce que je crois percevoir ce qu'il a voulu faire, une sorte de mélo burlesque. Mais ça ne marche pas pour moi.
Charlotte.
C'est vrai que l'accumulation de ruptures amoureuses, puisqu'elle se fait plaquer quand même au téléphone.
Licenciement.
Licenciement, crise de la quarantaine, bipolarité, maladie incurable et crise climatique, ça
et
fait yéti. Un peu beaucoup.
Et
yéti, ouais, mais le yéti devrait être le contrepoint, comme le gentil prédateur dont nous parlait Jean-Marc. J'ai trouvé effectivement que ça sentait un peu le scénario filmé, quoi, et qu'on a du mal à se sentir pris par la neige. En plus, on sait qu'il est allé loin, qu'ils sont tous allés et tout ça. On a envie qu'il y ait un effet de matière, quoi. Et ça n'a pas non plus fonctionné sur moi. Et c'est vrai que finalement, la scène où Blanche Gardin fait rire, c'est une fois de plus, enfin, c'est en tant que comique quand elle raconte ses expéditions dans une classe de petits-enfants et qu'elle leur fait peur. Et ça m'a rappelé d'ailleurs cet excellent livre d'une chercheuse dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais Les Fauves, je crois que ça s'appelle, où elle raconte son affrontement avec un ours et ses blessures et comment elle a guéri à l'hôpital au fin fond de la Sibérie. Je pense que ça, c'est-à-dire cette violence-là, il veut la mettre par tous ces thèmes tragiques au cœur du film, mais qu'on est presque un peu comme dans L'Inconnu de la Grande Arche ou Les Aigles de la République, c'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose de comique et après, ce virage mélodramatique ou mélancolique, pour moi, ne fonctionne pas.
Jean-Marc.
Pour moi, c'est un peu l'inverse. Effectivement, il y a une césure dans le film. Le premier film, on a l'impression que c'est vraiment le pitch type d'un film français de 2025 avec Bastien Bouillon. C'est-à-dire que c'est toujours un personnage de transfuge qui revient dans son village natal, qui retrouve les gens qu'il a connus et qui solde ce qui s'est défait ou ce qui ne s'est pas défait de sa vie passée. C'est vraiment, on a du mal à s'intéresser encore une fois cette année à ce type de film. D'autant plus que c'est fait de manière assez maladroite et pas très inspirée dans la première partie. Et une fois que le film part au Groenland, moi j'ai l'impression que le film trouve son lieu, que le cinéaste est vraiment dans le désir de ce qu'il filme et que le rapport qu'il y a entre Blanche Gardin et les acteurs non professionnels inuits autour d'elle est vraiment intéressant. J'aurais aimé que le film peut-être ne soit constitué que de ça, qu'il soit plus radical, qu'il filme davantage Blanche Gardin qui marche dans ce désert de glace, que ce soit un peu Jerry Gus Van Sant, quelqu'un qui marche dans le désert. On sent que c'est vraiment ça qu'il a envie de filmer et qu'il n'est pas tout à fait à l'endroit de son désir.
Il arrive parfois au masque de vivre quelques moments de solitude. Est-ce que quelqu'un souhaite participer à ce débat sur l'incroyable Femme des neiges de Sébastien Bête-Bédé? Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas tout d'accord avec M. Birmurat, pour une fois. Je suis souvent d'accord avec lui. Mais moi, j'ai bien aimé ce film parce que, justement, c'est un film d'aventure. Il ne faut pas trop chercher non plus le réalisme ou le A plus B égale C. C'est comme ça. Il faut se laisser porter par le côté aventurier de cette femme qui se remet en question à cause de plein de choses. Mais c'est sûr que c'est un peu une accumulation, mais il faut bien qu'il y ait un scénario quelque part où on ne peut pas reprocher. Quand il y a beaucoup de choses, on ne peut pas faire des qualités, en faire des défauts. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, tant le début, parce que même s'il y a des choses un petit peu bizarres, elle est un peu indépendante, elle ne dit à personne qu'elle est très malade. Mais cela dit, ça peut expliquer aussi son côté indépendante. Voilà, moi, je suis très content de ce film.
Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre, monsieur ?
Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Marc Lalanne. Au début, j'avais peur, avec Blanche Gardin, que ça parte sur un film un peu burlesque. Mais la deuxième partie qui se passe chez les Inuits, effectivement, elle pose la question fondamentale de la vie, à savoir sa fin. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus fort que je ne l'aurais cru au départ.
Merci pour votre intervention. Et c'est maintenant l'heure de vos coups de cœur. Charlotte, on commence avec toi.
Oui, alors mon coup de cœur, c'est Deux procureurs de Sergueï Loznitsa, qu'on connaît peut-être plus pour ses documentaires. C'est un documentariste ukrainien qui a d'ailleurs, dont l'invasion est sortie le mois dernier. C'est l'histoire d'un jeune procureur pendant les grandes purges staliniennes en 1937 qui, disons la fleur au fusil, croit encore en le droit et au bolchevisme. Hein, c'est un membre du parti, il a le communisme bien ancré, mais il est un peu frais. Et il reçoit une missive de détresse par miracle qui l'atteint d'un détenu qui est torturé au fin fond d'une prison. Il y va et tout le film le suit dans cette espèce de dédale évidemment complètement kafkaïen. Ça parle de la dictature, hein, comme les aigles de la République. Ça pourrait donner l'impression d'être figé dans la forme, mais Sergueï Loznitsa se pose la question. Comment je fais un film sur une société carcérale sans verrouiller ma mise en scène? Et il a plein de réponses, et j'ai trouvé la proposition formelle très forte aussi.
Merci pour ce coup de cœur pour Deux procureurs de Sergueï Loznitsa. Pierre?
Alors, c'est un film qui s'appelle « Six jours ce printemps-là » de Joachim Lafosse. Alors, ça se passe dans le Midi, dans une villa, et s'y installe une mère avec ses deux enfants, donc jusque-là tout à fait normal, sauf que, en effet, ils sont à la fois chez eux et des intrus. Et on s'aperçoit vite que si les enfants sont bien chez eux, puisqu'ils sont dans la villa du grand-père, sauf que la femme a divorcé, que ça s'est visiblement mal passé, et que donc il faut qu'ils se cachent. Et donc, ils vont à la plage, mais en même temps, il faut pas qu'ils ouvrent trop les rideaux pour pas que les voisins sachent qu'ils sont là. Et à partir de cette situation, Joachim Lafosse fait un véritable suspense solaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où vont-ils être découverts? Est-ce qu'ils vont être découverts? Et donc, c'est toujours le cas avec ce cinéaste. Il avait fait L'économie du couple, sur le couple, et naturellement sur Les intranquilles aussi. Il y a toujours un moment où la violence surgit dans la soi-disant paix, voilà. Et je trouve que c'est un film qui va jusqu'au bout avec un dénouement à la fois très violent mais très classique. Je trouve que c'est un film assez fascinant.
Six jours ce printemps-là de Joachim Lafosse. Florence.
Moi, je voulais parler de Pompei sotto le nuvole, qui est un film, un documentaire italien de Gianfranco Rosi, très grand cinéaste qui a eu un Lion d'Or, un Ours d'Or pour ses documentaires, mais qui sont malheureusement peu vus. Et on croirait que c'est un film sur Pompéi, vu le titre, mais en fait, c'est un film vraiment sur Naples. Et c'est un film qui part du Vésuve et qui s'ouvre avec cette citation magnifique de Jean Cocteau, « Le Vésuve fabrique tous les nuages du monde ». Et du Vésuve, à partir de la menace qu'il représente pour la région de Naples et en même temps du formidable réservoir d'histoire qu'il est, Gianfranco Rosi construit une sorte de symphonie en noir et blanc. C'est absolument magnifique visuellement. Et en même temps, c'est une promenade et il va à la rencontre des gens qui font Naples. Et c'est pas du tout les clichés de Naples. Il n'y a pas de camoriste, il n'y a pas de pizza. On est vraiment dans une Naples différente, mélancolique, très proche de l'Antiquité romaine. C'est vraiment un film magnifique. Pompéi, Sotto les Nuvole.
Pompéi sous les nuages de Gianfranco Rosi. Pour ma part, j'ai choisi un film à la croisée de la fiction et du documentaire, ne serait-ce que par son casting, parce qu'il réunit des comédiens professionnels et des acteurs non professionnels qui jouent leur rôle de juge et d'avocat, puisque le film se déroule à huis clos dans un tribunal. Et le titre du film tient en trois mots. On vous croit. Et ces trois mots, Alice et ses deux enfants attendent et aimeraient qu'on leur dise, s'ils sont au tribunal, c'est parce que l'ex-mari et père entament une procédure judiciaire contre Alice pour revoir ses enfants, avec qui il n'a plus du tout de contact. Et face à la juge, avocat et époux exposent leurs arguments dans une séquence extrêmement forte qui dure 55 minutes sur 1h15 de film. Et vient le tour d'Alice, qui énonce les accusations de viol des enfants à l'encontre de leur père. Ce père est interprété par Laurent Capelluto. La mère, c'est Myriam Akeydiou. L'un et l'autre sont remarquables de bout en bout. Et on ressort évidemment sonné du film, mais c'est aussi un film où on se dit que le cinéma sert à prendre la mesure d'une réalité sociale tout en mettant une distance qui permet la pudeur, l'intelligibilité et la nuance. Je vous redonne le titre « On vous croit » de Charlotte Devillers et Arnaud Dufay. C'est en salle depuis le 12 novembre. Jean-Marc.
Un premier long-métrage de fiction qui s'appelle « Kika » d'une jeune cinéaste, Alex Poukine, qui avait réalisé plusieurs documentaires. Et le film entrelace aussi des éléments de fiction et de documentaire. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son compagnon et qui doit faire face à la précarité sociale et va décider de devenir une travailleuse du sexe, BDSM. Et ça raconte tout le chemin, toute la difficulté qu'elle a à le vivre et à l'effectuer. Il y a de vraies travailleuses du sexe qui jouent dans le film, et le film renouvelle assez la manière de montrer une passe, un rapport de prostitution sans aucun effet d'érotisation. C'est un peu l'inverse de Belle de jour de Buñuel. Il y a vraiment une acuité documentaire sur ces séquences, une analyse des rapports de force qui est assez passionnante. Et le film est aussi marqué par la révélation d'une jeune comédienne qui s'appelle Manon Clavel, qui a une manière de jouer toutes les situations dramatiques avec une légère fantaisie qui est très troublante, et je pense qu'elle a beaucoup d'avenir.
Kika d'Alex Poukine. Jean-Marc Lalanne, Charlotte Garçon, Florence Colombani, Pierre Murat, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Les prochains enregistrements auront lieu le jeudi 27 novembre, toujours entre 19h et 21h au Théâtre de l'Alliance Française. Nous parlerons d'autres films en salle et de l'actualité littéraire. Je vous rappelle que les votes pour le prix du Masque sont ouverts. Adressez-nous vos mails via le site de l'émission ou à l'adresse mail lemasqueetlaplume@franceinter.com. Et la remise des prix aura lieu en présence des réalisateurs et ou réalisatrices le dimanche 22 février. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque, et c'était avec Jean-Baptiste Etchepard-Bord, Philippe Thibault et Jérémy Kaufmann aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation de l'émission avec l'aide de Zora Desgouttes. Ma bande et moi vous retrouvons la semaine prochaine avec des enthousiasmes ou des désaccords, une liberté critique dans tous les cas, et sur France Inter, évidemment.